Voilà, donc si je pose cette question, alors que la réponse me paraît assez évidente, c'est parce qu'il me semble que le descriptif de notre séminaire indique peut-être le contraire. Et comme disait Christophe, nous avons énormément discuté pour arriver à ce texte que vous avez là et dont je vais vous montrer en tout cas quelques phrases. Nous avons beaucoup discuté, peut-être sans tout à fait nous entendre, et en approchant d'une entente. Je voudrais donc discuter de ce en quoi peut consister une analyse immanente et quelle est sa place dans une musicologie générale qui, comme vous le voyez dans l'intitulé de ce séminaire, une musicologie générale mais qui porte sur l'appréhension de la signification et du sens. Je ne insisterai pas sur la distinction faite entre signification et sens, bien que c'est un point qui mériterait sans doute un peu d'attention. Mon intervention donc consistera à vous soumettre des questions que je continue à me poser dans l'espoir d'y voir peut-être un peu plus clair ce soir. Je vais donc parcourir avec vous les premières phrases du descriptif de ce séminaire. Et d'abord celle-ci, l'exploration d'œuvres musicales, de représentations iconographiques ou encore de sources théoriques dans le cadre d'une musicologie générale ne peut faire l'impasse sur la prise en compte des contextes. Alors, ceci me semble indiscutable. Jean-Jacques Nattier y avait consacré une bonne partie de son ouvrage Musicologie générale et sémiologie il y a, c'est un peu vache de dire ça, il y a un certain temps. Voilà, c'est comme à l'armée, il y a un certain temps. Il montre que l'analyse de l'œuvre immanente, celle qui, à partir d'une méthodologie explicite ou implicite, s'attaque aux seules configurations immanentes de l'œuvre, je le cite, n'est qu'une approche de l'analyse parmi plusieurs. Mais ça, j'en suis convaincu aussi. Une conclusion à en tirer et sur laquelle nous sommes sans doute d'accord, c'est que l'analyse immanente, si elle est possible, n'est en tout cas pas suffisante. Qu'elle n'épuise pas l'examen musicologique général. L'analyse immanente n'est qu'un moment de l'analyse générale, comme Nattier le rappelle d'ailleurs dans la conclusion de son plus récent ouvrage « Analyse et interprétation de la musique ». Notre argumentaire continue comme ceci. Il s'agit d'une part des contextes de production et de réception, et de l'autre, de la signification contextuelle d'unité de sens au sein d'ensembles plus vastes, partitions, corpus iconographiques, écrits théoriques, etc. Une petite parenthèse, je ne parlerai pas des corpus iconographiques et des écrits théoriques, de l'analyse qu'on peut faire de cela, parce qu'il me semble poser d'autres problèmes, puisque ces documents-là se présentent à nous sous la forme d'une autre sémiotique, qu'elle soit iconographique ou verbal dans le cas des écrits théoriques, alors que ce qui m'intéresse, c'est le problème de la sémiotique musicale. Donc, quand on parlait d'appréhension de la signification et du sens, ce n'est pas la signification des textes théoriques dont je parle, bien qu'elle m'intéresse, bien entendu, mais la signification de la musique elle-même. Alors, les contextes de production et de réception, cela fait évidemment référence au niveau poétique et esthésique de la tripartition de Molineau et Nattier. La prise en compte de ces contextes permet, comme le dit Nattier, d'interpréter esthétiquement ou poétiquement les résultats de l'analyse immanente. Donc, on n'en est pas encore à répondre à la question de savoir si l'immanence est possible. Les significations contextuelles, vous voyez que de l'autre, la signification contextuelle d'unité de sens, les significations contextuelles au sein d'ensembles plus vastes font référence par contre à ce qui me semble devoir être défini comme un macro-texte plutôt que comme un contexte, comme un corpus, et qu'il faut comprendre, au moins dans le cadre de ce séminaire sur la musicologie numérique, comme un corpus numérique. Georges Molinier, à une époque où les possibilités d'un corpus numérique n'apparaissaient peut-être pas encore clairement, défendait déjà l'intérêt d'une approche sérielle, en particulier dans le cadre de sa sémiostylistique, qui visait notamment à mesurer la littérarité par l'identification de stylèmes. Je pense qu'une sémiostylistique musicale pourrait rendre compte de la musicalité à partir de corpus numériques comme celle de Molinier portée sur la littérarité. Rastier va plus loin et attend de la sémantique de corpus qu'elle renseigne sur la posture culturelle des textes et même sur leur idéologie, sur leur éthique. La question que je me pose est de savoir si les significations que l'on peut tirer d'un corpus sont du même ordre que celles que l'on déduit d'une œuvre individuelle. Il faudrait relire à ce propos notamment ce qu'écrivait Nicolas Ruvet dans la section « L'analyse des œuvres particulières et la mise en série » de son article « Théorie et méthode dans les études musicales » dans « Musique en jeu ». Tout cela c'est bien ancien, mais enfin pour nous c'est notre jeunesse. Il situait encore le problème à ce moment-là dans la stylistique. Il faudrait voir, il faudrait actualiser ce qu'il affirmait là, mais je pense que ce qu'il disait est toujours intéressant. Réfléchissant à tout ceci, je me suis rendu compte que plusieurs travaux universitaires de mes étudiants, c'est eux qui m'ont appris tout ça, ont porté sur des corpus numériques, des corpus parfois vastes. Anne-Emmanuel Keulemans sur Josquin des Prés en 1996, Bertrand Desbordes sur les récitatifs mozartiens, Claire Meyer sur les motets de Audemont, Philippe Caté sur la musique tonale, Hugues Serres sur Bartok, Christophe Guillotel-Nutmann sur les origines de la syntaxe harmonique tonale, Ziad Zoari sur l'évolution de la musique tunisienne depuis le congrès du Caire. Ces travaux qui, j'insiste, traitaient tous leur corpus par des procédés numériques, ont porté chaque fois plutôt sur le langage et sur ses mécanismes que sur ce que j'appellerais la signification à proprement parler. Alors, il est vrai que les mécanismes langagiers ont un rôle déterminant dans la production de sens, mais il ne me semble pas pourtant que les deux puissent se confondre. Je pense que les recherches de mes anciens étudiants, même si elles comportaient une ouverture vers le sens musical, ne traitait pas de celui-ci en tant que tel. Une des raisons pour lesquelles l'étude du langage musical ne débouche pas aisément sur celle de sa sémantique est peut-être que la sémantique musicale, en tout cas celle que j'appelle intrinsèque, et qui me paraît constituer la sémantique musicale proprement dite, n'est ni référentielle ni même conceptuelle. Nous plaçons provisoirement au niveau d'une sémiotique de type saussurien, il faut convenir que le signifié musical n'est pas un concept. Il est une idée musicale relativement indéfinissable. Par conséquent, la sémantique musicale n'est pas conceptuelle non plus, ni au niveau du texte, ni à celui du corpus. Elle ne produit pas de concept. Sur ce point, je rappelle ce que Benveniste disait. Il n'y a pas en musique d'unité directement comparable au signe de la langue. Et je pense qu'il faut comprendre cela dans le contexte de la distinction qu'il faisait entre deux modalités de sens. Je pense, écrivait-il, je pense en fait qu'il y a deux domaines ou deux modalités de sens que je distingue respectivement comme sémiotique et sémantique. Le signe saussurien est en réalité l'unité sémiotique, c'est-à-dire l'unité pourvue de sens. Et reconnu ce qui a un sens, tous les mots qui se trouvent dans un texte français, ou qui, pour qui possèdent ces langues, ont un sens. La sémantique, donc, c'est l'autre domaine, la sémantique c'est le sens résultant de l'enchaînement, de l'appropriation à la circonstance, et de l'adaptation des différents signes entre eux. Ça, c'est absolument imprévisible, c'est l'ouverture au monde, c'est l'ouverture vers le monde, tandis que la sémiotique, c'est le sens renfermé sur lui-même et contenu en quelque sorte en lui-même. Vous comprenez bien pourquoi Benveniste appelle ce premier sens, le sens sémiotique, c'est le signe proprement dit, signifiant, signifié. Donc c'est ce couple-là qui est proprement sémiotique, qui est stable, par opposition au sémantique qui est absolument variable. La modalité de sens que Benveniste appelle sémiotique est en quelque sorte immanente par nature. C'est le lexique. Malgré quelques tentatives existantes de lexique musical, on rappelle quelques-unes, à Safiev, au Falussi, d'Eric Cook, la théorie des topiques éventuellement, et d'autres, il faut considérer que la musique, sauf exception, n'a normalement pas de lexique, ni de signification immanente de ce type, du type lexical. Elle forme un système signifiant où le sens est immédiatement sémantique. Alors, je reviens à l'argumentaire de cet après-midi. J'attire votre attention sur le troisième alinéa. Le choix méthodologique entre l'analyse contextuelle et l'analyse immanente semble a priori indépendant du problème de la nature des significations. Je reviendrai sur la suite. Il me semble que ce n'est pas un choix seulement méthodologique. Je pense que les significations que dégagerait l'analyse contextuelle et celle de l'analyse immanente, ces deux types d'analyse, en tout cas, n'ont pas le même but. Les types de significations qu'elles décrivent sont absolument différents. L'analyse contextuelle, je pense plus généralement l'analyse musicologique, décrit des significations qui sont du domaine de l'idéologie, du social, de l'histoire, de la culture, etc. L'analyse immanente, telle que je la conçois au contraire, est de type linguistique strict. Son but est notamment de dire comment la musique, considérée en quelque sorte comme un langage, produit un sens proprement musical, ce que j'appelle un sens intrinsèque. Il s'agit d'un point crucial que j'ai déjà tenté d'expliciter lors de séances précédentes de ce séminaire, mais manifestement pas assez clairement ou pas de façon assez convaincante et sur lequel il faut que je m'arrête une fois encore. Tout l'intérêt d'une sémiotique musicale vient pour moi du fait que la musique possède un sens proprement musical, intrinsèque, non traduisible en langage verbal et qui ne se présente à l'esprit que sous forme de musique. C'est celui que les philosophes et les musicographes allemands, depuis Kant et Hegel, en passant par Hanslick et Schenker, je jure de ne citer Schenker qu'une seule fois, c'est maintenant. Hanslick et je ne citerai plus, celui dont on ne dit pas le nom, et jusqu'à nos jours, ce que les Allemands appellent Inhalt, c'est le contenu de la musique. J'ai cité dans ce séminaire déjà ce passage de Schoenberg que je reproduis ici parce qu'il exprime de façon très convaincante ce que je veux dire. Bien peu de gens sont capables de comprendre en termes proprement musicaux ce que la musique a à dire. J'ai découvert à ma grande honte, Schoenberg qui parle, il y a quelques années, que je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans les poèmes à la base de certaines mélodies de Schubert que je connaissais bien. Il m'est apparu que sans connaître les poèmes, j'avais saisi le contenu véritable, peut-être plus profondément que si j'étais demeuré à la surface des pensées particulières exprimées par les mots. Donc voilà ce qu'un musicien dit de ce qu'il sent comme étant le contenu de la musique. Cette citation de Copland, Aaron Copland, oui, ça vous a un peu peut-être peine à lire tout ça, peut-être. Je crois que toute musique a une certaine signification, utilise le mot meaning, derrière les notes, et que cette signification derrière les notes constitue somme toute ce que la pièce dit, ce qu'elle concerne. Tout ce problème peut être formulé simplement en demandant « y a-t-il une signification en musique ?» Ma réponse à cela serait « oui ». C'est Copland qui parle. Et pouvez-vous dire en tant que mot ce qu'est cette signification ? Ma réponse à cela serait « non ». C'est là que réside toute la difficulté. Et au moment où Copland dit « non », il ne veut pas dire qu'il ne saurait pas dire quelle est cette signification, il veut dire qu'il ne saurait pas le dire en mots. Que cette signification n'est pas transmissible en langage verbal. C'est ce que dit d'ailleurs Benveniste aussi. Certains systèmes sémiologiques sont fondés sur leur ordre propre, ainsi la musique. La musique n'est pas transposable, il parle d'autres systèmes, donc vers un autre système sémiologique, et ne répond que d'elle-même. C'est au musicien de dire ce que représentent les sons et leurs combinaisons, aucune espèce de corrélation possible entre les unités de cet univers et celles d'un autre système sémiologique. Une unité musicale n'est signifiante qu'en fonction d'une convention interne. Donc c'est cela que j'appelle la signification intrinsèque, et vous allez voir pourquoi elle est intrinsèque. Alors, je reviens encore une fois à notre argumentaire, encore une fois le dernier alinéa. Le choix méthodologique entre l'analyse contextuelle et l'analyse immanente semble a priori indépendant du problème de la nature des significations. qui peuvent être ontologiques, inscrites dans l'objet qu'elles dénotent, ou nominalistes, dépendant de la méthode. J'avoue ici ne plus bien me souvenir comment nous étions arrivés à ce texte-là. Je suppose que ce que nous avions voulu dire, regardez-là, c'est quand même assez curieux, ce que nous avions voulu dire, c'est que des significations pourraient être inscrites, non pas dans l'objet qu'elles dénotent, mais dans l'objet qui les dénote. Il est évident que les significations ne peuvent pas être inscrites dans l'objet qui est leur signification. C'est l'objet qui les dénote, c'est l'objet de notre analyse qui contiendrait peut-être en lui-même des significations. Donc, les significations devraient être introduites, inscrites dans l'objet qui les dénote plutôt que dans l'objet qu'elles dénotent. Elles seraient alors immanentes à leur signifiant. Je pense que la raison pour laquelle l'hypothèse de telle signification immanente est inscrite dans notre descriptif, c'est que Christophe, à un moment donné, a pensé que ma position était immanentiste. Nous nous en sommes expliqués depuis, je crois qu'il n'y a plus trop de malentendus sur ce point. Je partage absolument le point de vue de François Rastier qu'aucun sens n'est immanent, n'est jamais déposé dans le texte pour y être découvert ou dévoilé. Et je suis d'accord aussi avec le point de vue de Jean-Jacques Nattier, pour qui toute analyse part toujours d'une méthode explicite ou implicite. Donc, le sens n'est pas quelque chose que l'on découvre, n'est pas déposé, comme dit François Rastier, n'est pas déposé là par Dieu ou par quelqu'un. Mais j'imagine que lorsque nous avons parlé de signification ontologique, nous avions quand même voulu désigner aussi des significations réelles ou réalistes, des significations objectives. Je pense en effet que les significations que j'appellerais extrinsèques, celles-là, cherchent souvent, notamment par l'interface du langage verbal, à se rattacher au monde réel, ou éventuellement au monde imaginaire, à ce que Georges Molinier appelait le mondain, ou à ce que Ricoeur appelle le monde de l'œuvre. Je veux bien croire, parce que même s'il n'y paraît pas, je suis d'un naturel plutôt conciliant, je veux bien croire que toute signification résulte toujours d'un double procès, celui que décrivait déjà Aristote dans le Périherménéas. D'abord, que les mots, les signifiants chez Saussure renvoient aux états de l'âme, les concepts chez Saussure, puis de ceci au monde réel ou imaginaire. Et ce second procès, comme vous le savez, est celui que les structuralistes ont jugé sortir du monde de la linguistique, donc faisant sortir du monde de la linguistique et de la sémiotique. Donc, une signification est produit un concept ou une pensée musicale, et cette pensée musicale éventuelle peut se rattacher au monde réel. Dans le cadre de la musique, je pense que la première étape est de loin la plus importante, même si certains font profession de dévoiler ou d'expliquer la seconde, c'est le problème de la narrativité en musique, mais aussi, dans une certaine mesure, des topiques. La théorie des topiques essaye chaque fois de rattacher des significations à des contextes réalistes, disons. Ces significations extrinsèques, qui tirent souvent leur légitimité de contextes de production ou de réception, ne sont au mieux que des connotations. Ce que j'appelle l'analyse immanente, donc, c'est celle qui recherche sa plausibilité dans le texte lui-même, et pas dans ses contextes. Pour autant, il s'agit bien d'une analyse interprétative, comme Nattier lui-même l'avait déjà dit en 1987, puisque toute analyse part nécessairement d'une méthodologie. Somme toute, mes affirmations jusqu'ici, que le sens musical serait non référentiel, que la musique n'aurait pas de lexique, ni de sens sémiotique, dans le sens de Benveniste, qu'il existerait un sens proprement musical, tout cela fait partie de mes a priori méthodologiques, et oriente a priori le résultat de mon analyse. Celle-ci demeure néanmoins immanente à mon sens, parce que ces a priori ne dépendent pas de l'œuvre que je vais analyser, et qu'il rejette a priori tous les éléments contextuels de cette œuvre. Je ne me préoccupe pas de savoir qui est le compositeur, ni dans quelles circonstances il a vécu, ni quand, ni comment son œuvre a été jouée à l'époque, ni comment elle a été reçue, ni comment elle le sera, ni même comment elle doit être interprétée. Je ferai peut-être encore une deuxième allusion à Schenker, si Jean-Jacques Mathieu m'y autorise. Nous sommes. Mathieu a écrit que l'analyse schenkerienne, dans une certaine mesure, prescrit des interprétations. Je pense que ce n'est pas le cas. Schenker dit, en disant la signification de la musique, dit quels effets doivent être obtenus. Mais il dit lui-même qu'il ne peut pas dire comment il faut les obtenir. Ça, c'est l'affaire de l'interprète. Ce n'est pas l'affaire de l'analyste. Donc, bref, l'analyse immanente, à mon sens, ne prescrit pas comment la musique doit être interprétée. Elle prescrit peut-être ce que l'interprétation doit dire, mais pas comment. Je ne conçois pas la sémiose musicale nécessairement comme une communication entre le compositeur et l'auditeur, mais ça, je pense que nous sommes assez d'accord sur le fait que on ne peut pas réduire ça à de la communication. Et je ne vise pas non plus cette utopie de l'authenticité musicale, si chère aux baroqueux. On allait retrouver les circonstances de l'époque, les contextes de l'époque, et faire des interprétations authentiques. C'est une utopie. Voilà, j'en termine à peu près un dernier point, parce que j'ai déjà été suffisamment long. Les œuvres que j'analyse sont des œuvres écrites. Ce sont des œuvres musicales constituées de notes. C'est un des points sur lesquels nous avons nous sommes un peu heurtés. Ce sont des œuvres notables. Notables, donc, que l'on peut écrire. Même des musiques de tradition orale qui n'ont jamais été écrites, je ne peux les analyser qu'à la condition qu'il soit possible de les écrire. Et je pense que c'est souvent le cas. Ces œuvres sont formées d'unités qui forment des classes ou des catégories. Et c'est cette catégorie, c'est cette caractéristique qui, selon moi, fait que ces œuvres sont sémiotiques et sont redevables d'une analyse sémiotique. Pour celles qui ne sont pas constituées de classes ou de catégories de ce type, je ne sais pas ce qu'il en est. Sauf erreur de ma part, les techniques de numérisation dont nous disposons aujourd'hui et qui mènent à des fichiers interrogeables, en tout cas interrogeables dans le cadre d'une analyse musicale, on peut évidemment interroger tous les fichiers, vous pouvez interroger les CD de votre bibliothèque qui sont aussi numérisés d'une certaine manière. Mais donc pour ce qui nous concerne, les techniques de numérisation dont nous disposons et qui mènent à des fichiers interrogeables, s'applique à la version écrite de la musique. Ce qu'on numérise, c'est la notation musicale, souvent. De la même manière que lorsqu'on numérise du verbal, c'est généralement le texte écrit que l'on numérise. Alors, la numérisation peut se compléter de métadonnées qui décrivent des contextes, mais qui n'appartiennent pas au cœur du document lui-même. Et je n'ai pas connaissance de techniques opératoires pour la numérisation, pour la numérisation interrogeable pour l'analyse de documents sonores. Je ne connais pas de technique qui permettrait de numériser une musique sonore, donc à partir d'un rendu sonore, et de la numériser de façon interrogeable sur le plan de sa sémantique. Je pense en fait que le processus de numérisation s'apparente toujours lui-même à une écriture. Alors, je viens de lire le texte que François Rastier nous a envoyé en préparation de cette séance, où il souligne l'aspect nécessairement interlocutoire du langage verbal. Oui, je pense qu'en effet, le langage verbal est très nettement interlocutoire. Il implique des interlocuteurs. Je ne suis pas convaincu que la situation de notre musique occidentale est tout à fait comparable à cela. Précisément parce que la musique occidentale n'est pas référentielle. Mais voilà, vous voyez que si j'ai peut-être répondu à la question l'analyse immanente est possible, je ne sais toujours pas comment elle est possible, jusqu'à quel point elle est possible, pourquoi elle est possible, et puis en fin de compte, au fond, je ne suis pas sûr. Voilà, je vous laisse éventuellement m'apporter des réponses que j'attends avec impatience.
Merci beaucoup, Nicolas. Il y a maintenant un temps de questions. Est-ce qu'il y a des questions spontanées du côté des participants à l'intervention?